France Culture, il est 18h, le journal. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un sommet européen sera consacré à la crise des réfugiés mercredi prochain. Depuis la fermeture de la frontière entre la Serbie et la Hongrie, les migrants affluent en Croatie. Le pays s'attend à voir arriver plus de 20 000 personnes dans les deux semaines à venir. À Paris, deux campements de migrants ont été évacués ce matin. Quelques 800 personnes ont été conduites vers des centres d'hébergement. Vous entendrez le reportage de Valérie Crova. Nous irons au Burkina Faso, déstabilisé par un coup d'État. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, affirme avoir le soutien de l'armée. Et à 18h20, du grain à moudre portera sur l'Europe, Hervé Gardette.
Ah oui, le chacun pour soi gouverne-t-il l'Europe aujourd'hui? Question posée à Stéphane De Vries, Aurora Minguez, Jean Quatremer et Clémentine Forissier.
À tout à l'heure. Comment faire face à la plus grave crise migratoire survenue en Europe depuis 1945? L'Union européenne se penchera sur cette question mercredi prochain à l'occasion d'un sommet extraordinaire organisé à Bruxelles. Les États membres doivent notamment se mettre d'accord sur la répartition de 120 000 réfugiés pour soulager l'Italie et la Grèce. Le Parlement européen a voté ce matin en faveur du plan proposé par la Commission européenne, mais plusieurs pays s'opposent à tout mécanisme de répartition obligatoire. Parmi eux, la Hongrie, qui a verrouillé mardi sa frontière avec la Serbie. Et depuis, le flux des migrants s'est détourné vers la Croatie, qui s'attend à voir arriver plus de 20 000 personnes au cours des deux prochaines semaines. Le Premier ministre croate a d'ailleurs alerté sur les capacités d'accueil limitées de son pays. Nous retrouvons Jérôme Jadot, notre envoyé spécial en Croatie. Jérôme, vous étiez à la mi-journée à la frontière serbo-croate. Que deviennent les migrants une fois qu'ils sont parvenus à passer la frontière ?
Alors après avoir attendu des heures sous un cuisant soleil d'hypothétiques trains pour Zagreb, plus de 4000 migrants massés dans ce village frontière, écrasés de fatigue, ont vu finalement s'approcher des bus sur des... L'atmosphère est tendue, les policiers anti-émeutes nombreux, les migrants sont censés être transportés dans des centres d'hébergement, mais les capacités d'accueil sont limitées, a averti ce matin le Premier ministre croate. Rester ici n'est de toute façon pas au programme. Comme les autres migrants, cet étudiant syrien regarde déjà vers le pays suivant sur la route vers l'Allemagne et la Scandinavie. On espère seulement que l'Union européenne fera pression sur la Slovénie pour qu'elle ouvre aussi ses frontières. On veut simplement passer. J'ai entendu que l'armée slovène se déployait tout au long de la frontière. Ça empire.
Alors, sans disposer d'informations particulières sur un éventuel déploiement militaire, il est vrai que les signaux envoyés par la Slovénie ne sont pas encourageants pour les migrants.
Membre de l'espace Schengen, contrairement à la Croatie, Ljubljana a démenti hier, négocier avec Zagreb l'ouverture d'un corridor humanitaire. La route vers l'Europe du Nord risque encore d'être longue.
Jérôme Jadot en direct sur la route de Zagreb, merci beaucoup et merci à Clémence Bonfils pour les moyens techniques. L'Europe est née pour abattre les murs, pas pour les construire, a déclaré ce matin Matteo Renzi. Pour le chef du gouvernement italien, l'Europe ne peut pas être un musée ou un lieu de souvenirs. Nous devons regarder avec plus d'humanité ce qui se produit dans le monde, en commençant par la Syrie. Et tous les pays de l'Union européenne doivent affronter ensemble le problème de l'immigration. Matteo Renzi doit rencontrer François Hollande ce soir pour évoquer notamment la mise en place des hotspots, des centres d'accueil, de recensement et de tri des migrants. À Paris ce matin, quelques 800 migrants ont été mis à l'abri. Ces demandeurs d'asile venus d'Érythrée et du Soudan principalement vivaient pour certains depuis des mois dans des tentes, à la rue. Ils ont été dirigés vers des centres d'hébergement. Récit de cette évacuation par Valérie Crova.
Ils avancent deux par deux, des sacs en plastique remplis de quelques affaires de rechange dans les mains. Un ou une volontaire les accompagne jusqu'au car qui les attendent sur les quais d'Austerlitz.
C'est après qu'on peut pas sortir.
Vous les emmenez où là?
Non, ils vont dans les bus là, qui les emmènent dans les centres d'hébergement.
À quel endroit?
Apparemment il y en a en banlieue et peut-être dans Paris, mais ils ont tous reçu une notice, puis il y a eu un discours là tout à l'heure pour expliquer, qui serait suivi. Dans toutes leurs démarches, que ce soit demandeurs d'asile, que ce soit réfugiés ou autres, ou ceux qui veulent rentrer au pays, et qu'ils avaient dans des lieux où ils auraient 3 repas par jour, des soins et un logement, et qu'ils pourraient aller venir, et que dans 48 heures, ils ont un entretien individuel qui déterminera les démarches à suivre avec eux et qui les suivra, et qu'ils auront accès aux soins, etc. Donc tout ça a été expliqué. Beaucoup n'ont pas tout compris, donc pour l'instant, c'est des bus. Donc moi, j'ai juste à porter les bagages, parce qu'il y en a qui sont très chargés, mais c'est tout.
Cette volontaire s'appelle Espérance, un nom prédestiné. Les travailleurs sociaux de la mairie de Paris sont un peu débordés.
Il faut qu'on gère leur situation particulière, quoi. Si on peut trouver quelqu'un, ou là, il y a quelqu'un de l'OFPRA aussi avec la Jevoin.
Vous cherchez quelqu'un qui parle quelle langue?
Arabe, kurde ou du farsi, de l'iranien.
Messieurs, je...
Un homme sourit timidement. Il s'appelle Abdel, il est originaire du Darfour, cette région située à l'ouest du Soudan. Dans son sac dépasse un petit livre, le Becherel.
Vous avez appris le français? Je vois qu'il y a le Becherel dans votre sac.
Tout seul.
Vous avez passé combien de temps ici?
7 mois aussi sous le pont.
Vous êtes arrivé directement à Paris ou vous avez fait un long voyage?
Oui, long voyage. Italie, Libye, Italie, Paris.
Vous avez entendu que la France allait accueillir 24 000 réfugiés, qu'ils allaient accorder des places. Vous avez entendu ça?
Oui, ça c'était... Oui, la semaine dernière, c'est dans les journaux, ils ont dit qu'il y a solution pour tout le monde. Je ne sais pas, c'est... Oui, peut-être c'est vrai, hein, peut-être.
Oui, vous espérez que ça va se régler?
Oui, j'espère.
Ouais. Vous allez être hébergé dans des bâtiments, donc ça sera un peu mieux que sous une tente?
Oui, c'est sûr, certainement, c'est sûr.
Ouais. Christiane est à ses côtés comme d'autres Parisiens. Elle est venue spontanément pour donner des cours de français à ses réfugiés.
Je connais ceux qui étaient là au mois de... Enfin, les Soudanais qui étaient là au mois de juillet, parce qu'en fait, mis à part Abdel qui apprend tout seul, mais qui vient régulièrement, on a fait du français avec eux tous les jours. Une super expérience humaine. Vous avez vu comme ils sont dignes et courageux.
Avant de monter dans le car avec un groupe de Soudanais, Christiane se rend compte que 5 d'entre eux se sont assis à l'écart.
Saddam, pourquoi vous restez là? Why are you staying here?
Badreddin, the soldier is not let him to come. The police is not allow him to come.
Et Badreddin, il est où?
Mais Badreddin, il est dans un autre car. En fait, Badreddin et lui, ils ont fait la route ensemble. Ils sont partis du Soudan ensemble. Ils ont failli périr en mer ensemble. Ils ne veulent pas se quitter.
Quelques minutes plus tard, le car partira avec à son bord 44 réfugiés, direction Ivry-sur-Seine, où ils ont été pris en charge dans un centre d'accueil.
Un reportage signé Valérie Crova. Situation normalisée donc pour ces demandeurs d'asile. La CIMAD, qui soutient quotidiennement les réfugiés, se réjouit de cette évolution dans la politique mise en œuvre par le gouvernement français. Mais Gérard Sadik reste prudent. À ses yeux, on est aujourd'hui surtout dans des mesures de rattrapage.
Pendant des mois, on nous a dit qu'il n'y a pas de place. Et là, d'un coup, la préfecture a trouvé des places d'hébergement. Les gens vont être dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Enfin, le ménage de tente, c'était pas possible. Et c'est ça la réalité du système d'asile français. C'est-à-dire que pendant des années, le gouvernement UMP à l'époque a nié le besoin d'hébergement. On a enfin un effort conséquent. C'est-à-dire que le ministre a annoncé 279 millions d'euros supplémentaires pour l'asile. C'est-à-dire à peu près la moitié du budget annuel qui est consacré, qui est 560 millions d'euros à peu près. Donc c'est plutôt conséquent, mais c'est en quelque sorte du rattrapage. C'est-à-dire que ça ne fait que pallier les dysfonctionnements qui existaient. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait ces moyens. Après, il y a une inquiétude, effectivement, sur est-ce qu'on va avoir un système plus coercitif, et notamment pour les personnes qui seraient rejetées définitivement, donc déboutées. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, l'accès à l'hébergement d'urgence qui était couramment admis est pratiquement interdit aux déboutés à la suite de plusieurs décisions du Conseil d'État. On a une situation qui évolue très rapidement. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs.
Gérard Sadik de la CIMAD au micro de Laure de Vulpion. Un proche de Blaise Compaoré prend le pouvoir au Burkina Faso. Le gouvernement de transition a été dissous et un nouveau Conseil national pour la démocratie a été créé, dirigé par le général Gilbert Diendéré, qui avait servi comme chef d'état-major pendant les 27 années de règne de Compaoré. Les précisions à Ouagadougou d'Aurélie Fontaine.
À Ouagadougou, la capitale burkinabé, il était difficile jusqu'à tôt ce matin de savoir si la prise d'otage du président par intérim par la garde présidentielle était un coup de force ou bel et bien un coup d'État. Le doute a été levé aujourd'hui vers 7h heure locale quand un militaire s'est exprimé à la télévision d'État. Il a annoncé que l'institution de la transition était dissoute et que le président avait démissionné. Le général Diendéré, qui est le chef des putschistes et un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre dernier, a justifié plus tard dans la journée ce coup d'État. Selon lui, cela a été nécessaire pour répondre, je cite, « aux mesures d'exclusion prises par les autorités de transition ». Il faut savoir en effet qu'à quelques semaines des élections présidentielles, certains candidats proches de Blaise Compaoré ont vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Une décision qui avait d'ailleurs été décriée par les institutions ouest-africaines. Le chef des putschistes a également indiqué que les élections présidentielles auront bien lieu, mais sans préciser si la date prévue du 11 octobre serait oui ou non maintenue. La stabilité du pays est donc bien ébranlée. Les frontières aériennes et terrestres sont fermées. Un couvre-feu a été instauré et des radios et télévisions interdites d'émettre. Les Burkinabés descendent quant à eux depuis hier dans la rue. Ils sont en colère, déçus, désemparés de ce nouveau coup de force. Les manifestants essayent de se rassembler, mais les militaires les dispersent en tirant à balles réelles. La question qui se pose désormais est de savoir si l'armée régulière va oui ou non intervenir, ce qui n'est pas le cas pour le moment, face à une garde présidentielle bien mieux équipée et bien mieux formée que l'armée régulière.
Aurélie Fontaine à Ouagadougou, Nadine Epstein a joint le politologue Michel Galli qui connaît bien le Burkina Faso. Il revient sur les causes de ce coup d'État.
Les causes immédiates, c'est sans doute le rapport il y a 3 jours qui préconisait la dissolution du régiment de sécurité présidentielle qui vient de prendre le pouvoir. Donc une revendication à la fois corporatiste et politique, puisque ce sont les partisans, c'est bien connu, de l'ancien président ou d'ancien despote Compaoré, qui est tombé, mais qui est pas loin, qui est en Côte d'Ivoire.
Est-ce que tout ça peut remettre en cause complètement le processus démocratique en cours ?
En tout cas, les élections du mois prochain, certainement. La situation est quand même très très floue et très évolutive. Mais pour autant, on attend les réactions de l'armée, puisque ce régiment de sorte de force spéciale, sans doute mieux entraîné, mieux armé, ne comprend quand même que 1200 hommes. Donc il y a l'armée, disons, classique, qui pourrait intervenir avec la population et peut-être des forces ou des puissances extérieures, CDAO ou Union africaine, et pourquoi pas peut-être les forces françaises Barkhane, même si c'est pas leur mission, contre les putschistes pour établir au fond ce mouvement de libération d'un peuple qui a paru tellement exemplaire à l'extérieur, au président Obama ou Hollande.
C'était le politologue Michel Galli. Le fondateur d'Altice, le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, continue d'accroître son empire dans le câble et les télécoms. Il a annoncé ce matin le rachat du 4e câblo-opérateur américain Cablevision, ce qui permet à la maison mère de Numéricable SFR de devenir un acteur majeur sur ce secteur très lucratif aux États-Unis. Et ça n'est qu'une étape, Jean-Marc Chardon, car Patrick Drahi a de grandes ambitions internationales.
Et oui, c'est une étape. Patrick Drahi voit toujours plus haut. La prochaine, ce pourrait être Verizon Communications, l'une des marques les plus puissantes au monde, mais qui est en moins bonne forme. Elle est passée de la 30e à la 34e place, ce qui peut être le moment propice justement pour un investisseur de passer à l'action. Car l'ambition de Drahi, c'est de s'installer au cœur de la première économie mondiale, les États-Unis, pour en faire son premier marché. Pas surprenant quand on observe le parcours de cet homme d'affaires franco-israélien dont la résidence fiscale est en Suisse et dont le groupe est coté Amsterdam, qui s'est taillé une position d'empereur dans le câble et qui devient aussi un homme de médias avec le rachat de l'Express, libération de fleurons de la presse écrite. Un parcours émaillé de réussite, hormis l'échec quand il a voulu s'offrir Bouygues Télécom au mois de juin. En tout cas, un investisseur qui conjugue sur sa personne les talents d'ingénieur, de financier habile, très bien entouré avec des financiers internationaux dans son staff. Leur stratégie, elle s'avère payante, c'est de jouer sur l'endettement. L'homme d'affaires ne craint pas les dettes car en réorganisant aussitôt les sociétés qu'il reprend, eh bien il fait des bénéfices qui permettent de payer les intérêts des prêts que les banques lui consentent sans difficulté. La faiblesse du système tout de même, c'est qu'il génère une bulle financière et qu'en cas de faillite, eh bien, ce n'est pas seulement le groupe qui souffrirait, ça pourrait avoir des conséquences sur l'économie d'un pays comme la France, d'où la méfiance d'une large partie de la classe politique, même si Patrick Drahi, il faut le dire, suscite plus souvent de l'admiration.
BlaBlaCar aussi veut poursuivre son expansion à l'international. Le champion français du covoiturage a levé 200 millions de dollars, un montant record pour une jeune pousse hexagonale. Créé en 2006, BlaBlaCar revendique déjà plus de 20 millions de membres dans 9 pays sur 3 continents. La start-up, accusée par certains de faire du profit sur une économie de partage, a réussi à trouver un modèle économique rentable après plusieurs essais. Écoutez l'analyse de Damien Demailly, il est chercheur à l'IDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Il est spécialiste de l'économie numérique.
Pour une bonne partie des entrepreneurs de cette économie-là, leur objectif, c'est de trouver un modèle économique rentable et de se développer et de faire du profit. La difficulté, c'est est-ce que vous arrivez à trouver un modèle économique ? Est-ce que vous arrivez à être sûr que les gens viennent sur votre plateforme et continuent à venir sur votre plateforme ? Et BlaBlaCar, par exemple, au début, a beaucoup essayé de travailler sur le covoiturage court distance, notamment les gens qui vont au travail pour aider ces gens-là, finalement deux travailleurs qui prenaient leur voiture à se mettre ensemble. Et ils ont pas réussi à trouver de modèle économique rentable là-dessus parce que les gens, c'est pour gagner 1 ou 2 euros, parce que quand les gens se connaissent, finalement, ils sortent de la plateforme, donc il n'y a pas de modèle économique. À partir du moment où les gens BlaBlaCar a réussi à se lancer sur la longue distance, Là, les gens vont économiser des 15, 20, 30 euros. Ils doivent venir à chaque fois sur la plateforme pour retrouver un nouveau covoitureur. Là, ils ont trouvé un modèle économique rentable et là, ils ont commencé à se développer. Ils ont quand même de fortes chances de réussir vraiment un jour à faire des profits assez importants. D'ailleurs, même ça pose même des craintes. Une crainte souvent qu'on a dans ce milieu de l'économie collaborative ou de l'économie des plateformes, c'est la crainte de monopolisation. Le fait de dire à partir du moment où il y a une plateforme qui est connue pour faire du covoiturage, tout le monde s'inscrit sur cette plateforme-là. Et donc finalement, peut-être que la crainte, c'est que bah, une fois que tout le monde doit venir chez vous, vous pouvez augmenter vos prix.
Damien Demailly, joint par Anne Lorchouin. C'était une journée test pour les opposants à la réforme du collège. Les enseignants étaient appelés à la grève par une intersyndicale. Les organisations revendiquent ce soir un tiers de grévistes, mais ils sont moins de 16% selon le ministère. Hakim Kasmi, vous avez suivi la manifestation parisienne qui rassemblait environ un millier de personnes.
Réforme du collège, abrogation, pouvait-on lire sur les banderoles lors de la manifestation? Alors malgré une mobilisation moins importante, pour Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, pas question de négocier avec Najat Vélo-Belkacem avant le retrait pur et simple du décret.
J'ai l'impression que la ministre essaie de se rassurer elle-même en répétant en boucle « la réforme s'appliquera, la réforme a été adoptée ». Elle a été adoptée par elle, certes, mais en tout cas pas par la profession.
Une profession divisée sur la réforme qui se dit surtout fatiguée et très déçue par la politique de François Hollande en termes d'éducation, notamment sur la question de la suppression des classes bilingues européennes ou encore sur le latin et le grec qui désormais seront enseignés via les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Marc est professeur de français en zone d'éducation prioritaire dans l'Essonne, en banlieue parisienne.
Justement, c'est dans les ZEP que ces sections sont le plus nécessaires. Parce que c'est là où précisément les élèves vont recevoir grâce à l'école ce qu'ils ne recevront pas chez eux. Ce qui est moins vrai dans les autres quartiers où les parents peuvent aider les enfants. Là, on est en train, avec cette réforme, de niveler. Hein, c'est le nivellement par le bas. C'est tragique pour ces gamins-là. C'est-à-dire qu'on va transformer finalement leur origine sociale en destinée. Quoi. C'est-à-dire, bah, t'es pauvre, tu restes pauvre et t'apprends rien.
Des inégalités qui, selon Gabrielle, professeure de lettres et coordinatrice d'un ULIS, vont se généraliser avec les 20% d'autonomie dans les établissements.
Le fait d'attribuer des enveloppes globales d'heures de cours aux chefs d'établissement, qui laisse ensuite les enseignants se débrouiller entre eux pour se les attribuer à telle ou telle matière, ça va générer des conflits absolument insurmontables. Il est évident que chacun voudra sauver son service et donc conserver un nombre d'heures qui lui conviennent.
Et ce qui ne sera pas sans conséquence pour les élèves, Mathieu Logothétis, secrétaire départemental du SNES 93.
Un élève par exemple qui serait en 5e dans un collège et déménagerait en 4e dans un autre pourrait se retrouver à perdre des heures de cours parce qu'il n'y aurait pas eu les mêmes heures sur chaque année. Et ça risque en effet de créer de vraies différences entre des élèves de différents types de quartiers, même dans un seul secteur hein, par exemple.
Alors pour attirer plus de monde, le SNALC appelle déjà à une nouvelle journée de mobilisation le samedi 10 octobre avec les parents d'élèves.
Hakim Kasmi, le projet de réorganisation du temps de travail à l'APHP fait toujours des vagues. Des centaines d'agents de l'assistance publique hôpitaux de Paris se sont rassemblés à Paris pour réclamer une nouvelle fois le retrait de ce projet. Les grévistes estiment qu'il n'y a plus aucun dialogue social et demandent la nomination d'un médiateur. Le meurtrier d'un policier libéré faute d'avoir obtenu dans les temps un procès en appel. Cet homme, incarcéré depuis 2009, avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un policier à La Courneuve. Il a fait appel en novembre 2011 et depuis, rien ne s'est passé. La justice estime que ce délai n'est pas raisonnable, d'où sa remise en liberté, Charlotte Piret.
Si difficile à entendre pour les proches de la victime soit-elle, la décision de la chambre de l'instruction est somme toute assez logique. Cela fait près de 4 ans que le meurtrier présumé du policier a fait appel de sa première condamnation. Il a donc largement dépassé la limite de 3 ans de détention provisoire dans ce type d'affaire. Et cela avant tout pour une question d'engorgement des tribunaux. À Évry, là où le procès en appel doit se tenir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2012, on comptait 48 dossiers en attente de procès. Aujourd'hui, ils sont 67. Or, il n'y a toujours qu'une seule salle d'assises et le nombre de magistrats n'a pas bougé. D'ailleurs, c'est simple, à Évry, une session d'assises chasse l'autre. Alors il faut fixer des règles de priorité, les procès de première instance ou ceux qui concernent des mineurs par exemple. Résultat, le temps file et d'autres dossiers prennent du retard. Et c'est vrai à Évry comme ailleurs. Dans l'affaire Mera par exemple, le frère Abdelkader Mera est incarcéré depuis le 26 mars 2012. Aucune date de procès n'est à ce jour fixée. Or, d'ici quelques mois, il aura dépassé la limite de 4 ans de détention provisoire prévue dans les affaires de terrorisme.
En novembre 2013, le journal d'extrême droite Minute avait comparé Christiane Taubira à un singe. La cour d'appel de Paris confirme la condamnation l'information du directeur de la publication. Il devra verser 10 000 euros d'amende. La météo, encore de la pluie demain. Elle touchera la plupart des régions et s'accompagnera souvent d'orages l'après-midi. Pyrénées et Sud-Est seront épargnés. Les températures maximales, 17 degrés dans le nord, 18 en Île-de-France, 20 en Aquitaine, jusqu'à 26 en région PACA. Ce journal est terminé. Il a été préparé avec Jean-François Braun. À 22h, vous retrouverez Stanislas Vazak.